Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, bien sûr, une émission de circonstance. Au lendemain de l'élection de ces 732 députés, le Parlement européen. Les institutions de l'Europe doivent naître des Européens, c'est-à-dire d'une manifestation démocratique par le suffrage universel. Charles de Gaulle, 1949. Mille ans d'histoire. Avec ses 732 députés élus hier dans 25 pays, le Parlement européen est devenu le plus grand parlement démocratique du monde. Mais combien des 349 millions d'électeurs qui ont voté hier ou se sont abstenus connaissent son histoire, son fonctionnement, le pouvoir et même le nom des nouveaux députés européens? Et quand on sait qu'hier, le premier parti de France était celui des abstentionnistes, combien d'entre eux s'y intéressent vraiment? D'autant que presque partout, en Angleterre, en Italie, en Allemagne ou en France, il s'agissait moins de voter pour ou contre les candidats aux élections que de sanctionner ou de soutenir les gouvernements en place. En attendant, bien sûr, d'assister non pas à la soirée électorale traditionnelle, mais à un match de football qui a mobilisé sans doute plus de Français devant leur télévision que dans les isoloirs. France Inter, Alain Passerelle, ce matin, dans le journal de 7 heures.
Et c'est le journal d'Alain Passerelle.
Bonjour. Élections européennes, effectivement, et football étroitement mêlé dans l'actualité d'hier soir. Côté politique, sur fond d'abstention record, on a assisté à une déroute sans précédent de la plupart des gouvernements en place. La journée d'hier fut une sorte de grand défouloir. En France, le PS sort grand vainqueur du scrutin et pose une fois de plus la question du maintien de Jean-Pierre Raffarin. À droite, l'UDF n'est qu'à 4 points de l'UMP. François Bayrou est sur un petit nuage. Au Parlement européen, l'équilibre politique devrait rester le même.
France Inter. Stéphane Beaumont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit public à l'Université de Toulouse et auteur d'un petit guide du Parlement européen, un Parlement qui vient de se renouveler avec les résultats que l'on sait, un vote sanction contre les gouvernements en place, sauf bien sûr ceux qui viennent d'arriver au pouvoir, comme en Espagne ou en Grèce. Et puis alors surtout, un taux d'abstention record, 57% en France. À quoi est-ce que vous attribuez cette abstention? À l'indifférence que suscite le Parlement européen ou à l'ignorance de son fonctionnement?
Oh, je crois qu'il y a sûrement un peu des deux. L'ignorance de son fonctionnement, sûrement. L'absence de médiatisation concernant la réalité des textes votés, la réalité du pouvoir normatif qu'est celui du Parlement européen. Les bilans des parlementaires européens qu'on a uniquement connus à travers leur participation ou non, à 100% ou pas, ce qui, entre nous, ne suffit pas. Et puis, peut-être, on l'a entendu aux nouvelles, aux informations de ce matin, et vous venez de le rappeler, effectivement, l'euro, France-Angleterre, a attiré plus de monde que la campagne électorale.
On pourrait faire les deux.
Essayons de raisonner là-dessus.
Voir le match de foot. Hein.
France-Angleterre, c'est une grande nation contre une autre grande nation dans le cadre d'une Europe pacifiée. Mais ce n'est pas une équipe européenne contre une équipe mondiale. Et je veux reprendre là ce que disait il y a une dizaine d'années le député Bourlange. Il disait que l'Union européenne ne s'est pas construite sur l'histoire, mais contre l'histoire, et que l'histoire européenne, finalement, s'est construite contre le principe de l'unité européenne, ce qui fait que l'Europe n'a pas cessé d'être un volontarisme politique, et on a voulu rendre contagieux ce volontarisme politique en faisant en sorte que les citoyens soient partie prenante à notamment l'élection du Parlement européen. Et je citerai juste ce petit mot d'Emmanuel Berle dans sa très belle histoire de l'Europe qui est parue dans les années 70. Emmanuel Berle disait « L'Europe n'est pas une donnée géographique, c'est un produit de l'histoire ».
Vous venez de dire, de parler de citoyens, Stéphane Beaumont. De quels citoyens parlez-vous? Est-ce que ce sont des citoyens français ou allemands ou alors des citoyens européens? À l'évidence, il n'y a quand même pas non plus un sentiment national européen. La preuve, on l'a dit, on vote, et il y a même certains partis qui en ont fait leur programme, on vote contre ou pour le gouvernement, hein, mais on vote pas tellement pour des députés. En plus, on sait même pas très bien de députés de quoi, de territoires qui viennent d'être formés. On ne sait même pas où siège ce Parlement. Je sais pas. Enfin, si, on sait, mais enfin, ce qui est curieux quand même pour un Parlement, il siège à la fois aussi bien à Strasbourg qu'à Bruxelles.
C'est un nomadisme permanent. À Strasbourg, à Bruxelles, un secrétariat général est installé quelquefois au Luxembourg. Il y a des déménagements qui coûtent d'ailleurs un certain prix pour aller de Strasbourg à Bruxelles, aller-retour. Et je crois que le phénomène justement important, c'est qu'il n'y a pas de partis politiques européens pour lesquels on pourrait voter. Nous n'avons que des partis politiques nationaux et leur engagement ou non pour l'Europe.
Parce qu'il y a des partis politiques européens, mais personne ne les connaît.
Par exemple, si on
vote, vote UMP, on vote en fait pour un député qui, au Parlement européen, sera au PPE.
Personne ne sait ce que c'est que le PPE. Faites un sondage sur le PPE, vous avez tout à fait raison. Personne ne le connaît, mais une vraie élection européenne, ce ne serait non pas des partis politiques nationaux qui font connaître leurs engagements ou non européens, mais des partis politiques européens qui seraient présents dans une seule et même circonscription, l'Europe. Faudrait-il encore que le mode de scrutin puisse être trouvé, le mode de scrutin idéal, et faudrait-il encore que les structures européennes ressemblent aux structures des États-nations, c'est-à-dire avec un Parlement et un Premier ministre, ou un Parlement et un Président de la République élu au suffrage universel direct, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
On y reviendra, Stéphane Beaumont, mais je voudrais aussi qu'on évoque autre chose. On ne connaît pas ce Parlement dans son fonctionnement, on ne connaît pas non plus son histoire. Hein. Il est né en même temps que les premières institutions européennes, la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951, et surtout le traité de Rome, qui crée l'ancêtre de l'Union européenne, le marché commun, né le 27 mars 1951, en présence du ministre des Affaires étrangères français de l'époque, Christian Pinault.
Le 25 mars 1957 sera une des plus grandes dates de l'histoire de l'Europe. Dans un instant, par nos signatures, le marché commun et l'Euratom vont naître. Ainsi, l'œuvre dont nous franchissons aujourd'hui la deuxième étape, après celle de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, n'aura point pour effet la création, comme certains nous le reprochent, d'une petite Europe isolée, mais sera l'ébauche de la grande Europe qui constitue notre objectif final.
Vous êtes sur France Inter et vous écoutez 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le Parlement européen. Alors on vient d'entendre Stéphane Beaumont, Christian Pinault, le jour où est né le marché commun, le 25 mars, et non pas le 27 mars, c'est mon anniversaire le 27 mars, c'est pour ça que j'ai dit ça, le 27 mars, non le 25 mars, donc 57. Alors c'est la naissance du marché commun, ce qui deviendra plus tard l'Union européenne. Elle ne comptait à l'époque que 6 membres, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Mais alors il y avait déjà un Parlement, ou plutôt on appelait ça une assemblée parlementaire. Hein. Le nom de Parlement européen n'est venu qu'après Maastricht.
Oui, tout à fait. On appelait ça d'ailleurs l'Assemblée commune de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui était compétente pour les trois communautés. La CE, Communauté économique européenne, le CEA, Communauté d'énergie atomique, CEA, et CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier. Et c'était composé de représentants choisis par les parlements nationaux, mais chargés d'établir un projet d'ailleurs pour l'élection au suffrage universel direct. Je parle de 57, ça ne sera obtenu qu'en 79. Mais contrairement à ce que l'on croit, eh bien l'adoption de l'appellation Parlement européen a été d'abord faite par une résolution du 30 mars 1962, une résolution acquise donc avant qu'en France on change le mode de scrutin pour l'élection du président de la République, et une résolution qui permettra ensuite, en 1986, à l'Assemblée des communautés de prendre tout à fait officiellement le nom de Parlement européen. À noter d'ailleurs pour l'anecdote que François Mitterrand préférait parler, lui, d'Assemblée parlementaire, et génériquement, constitutionnellement, un Parlement, c'est l'addition de deux chambres, l'Assemblée nationale, le Sénat, la Chambre basse, ouais. la Chambre haute. Mitterrand avait une conception là assez rigoriste de la Constitution et de l'esprit qu'il animait de parlementaire.
Alors vous l'avez dit, Stéphane Beaumont, à l'époque et pendant 20 ans, entre 57 et 79, un peu plus de 20 ans, donc les députés au Parlement européen ou à l'Assemblée parlementaire européenne étaient élus en quelque sorte par cooptation, ils étaient désignés par les parlements nationaux, et puis alors déjà, et c'est encore le cas aujourd'hui, il faut bien le dire, ils n'avaient pratiquement aucun pouvoir, ce Parlement européen.
Oui, au départ, il avait le mérite d'exister, il avait le mérite d'avoir un rôle consultatif, mais il n'avait pas le mérite de pouvoir exercer, comme il le fera par la suite, eh bien, différents pouvoirs, comme celui du pouvoir législatif, du pouvoir budgétaire, du pouvoir de contrôle démocratique, de pouvoir utiliser ce qu'on pourrait appeler l'arme fatale, la censure, de pouvoir exercer le pouvoir de codécision. Et donc, pendant un certain temps, il n'y a eu qu'une très faible médiatisation, un très faible intérêt pour un Parlement européen qui avait le mérite d'exister, qui avait le mérite d'être déjà, si je puis dire, organiquement là, avant de l'être dans la Constitution. Alors, que nous allons bientôt connaître.
Il avait si peu de pouvoir d'ailleurs que je vois qu'en 1960, un président du Parlement européen, pour mettre un terme à une séance houleuse, à un débat houleux au Parlement européen, disait un peu de tenue, messieurs, nous ne sommes pas encore un vrai Parlement. C'est dire à quel point il y avait peu de pouvoir. Alors le pouvoir, il était exercé, et il l'est encore aujourd'hui, Stéphane Beaumont, essentiellement par les deux autres institutions, c'est-à-dire la Commission, hein, qui siège à Bruxelles, et le Conseil des ministres. Assez curieux, on est dans une union qui regroupe des démocraties, mais c'est du pouvoir exécutif et non pas du tout du Parlement que viennent les lois essentiellement.
Oui, justement, c'est assez compliqué. Il faudrait peut-être le rappeler un peu, cette organisation autour de trois grands acteurs. La Commission européenne, qui est composée d'un certain nombre de commissaires nommés pour 5 ans, avec, faut-il le préciser, l'accord du Parlement européen. Et nous verrons peut-être tout à l'heure que le président de la Commission européenne devra être validé par le Parlement européen. C'est inscrit dans la Constitution qui devrait être prochainement adoptée. Et cette Commission européenne gère les politiques communes européennes, exécute le budget et veille au respect des traités. On parlait de localisation géographique. Son siège est à Bruxelles.
Et puis le vrai pouvoir, c'est le Conseil des ministres, c'est-à-dire les représentants des gouvernements.
Qu'est-ce que c'est d'ailleurs que ce Conseil des ministres, officiellement appelé d'ailleurs Conseil de l'Union européenne depuis le 8 novembre 1993, c'est une institution qui partage avec le Parlement européen la compétence législative et le pouvoir budgétaire. À noter d'ailleurs que les ministres des Affaires étrangères dont vous parliez tout à l'heure constituent le Conseil Affaires générales, tandis que les ministres spécialisés participent aux réunions du Conseil en fonction de leurs compétences respectives.
Alors, le Parlement était plutôt, si je puis dire, décoratif, et cela peut-être aussi en raison du fait que les députés du Parlement, n'étant pas élus au suffrage universel, bah, il manquait peut-être un peu de légitimité, jusqu'à ce qu'on décide, au début des années 70, donc, qu'ils soient élus au suffrage universel direct, un projet défendu en 1977 par le président de la République de l'époque.
Valéry Giscard d'Estaing aura donc choisi Strasbourg et son nouveau palais de l'Europe pour livrer un véritable manifeste des idées de la France en matière européenne.
Il est souhaitable que les membres de l'Assemblée soient élus directement pour accomplir leur mission spécifique, et il est bon que les électeurs, de leur côté, aient la possibilité de manifester l'intérêt qu'ils portent aux problèmes européens par le choix direct de leurs représentants.
Alors c'était donc Valéry Giscard d'Estaing en 1977, se prononçant pour l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct, une décision d'ailleurs qui a suscité beaucoup de réactions. Stéphanie Duncan n'étant pas là aujourd'hui pour nous faire une revue de presse, je vous propose d'écouter une de ces réactions, celle de Jacques Chirac, le chef du RPR à l'époque, et qui malgré son appartenance à la majorité de l'époque, n'hésitait pas à se prononcer contre le projet de Valéry Giscard d'Estaing, à une époque où vous allez l'entendre, Jacques Chirac parlait beaucoup plus vite qu'aujourd'hui, c'était le 7 avril 1977, il y a 27 ans.
Quand on est incapable de résoudre les problèmes concrets qui se posent, on dit, bien, on va changer les institutions. Alors on dit, bien, on va élire ce Parlement européen au suffrage universel. Moi, je veux bien. Cette Assemblée n'a pas le pouvoir législatif, puisque c'est le Conseil des ministres qui l'a. Cependant, nous craignons beaucoup que de réunir ainsi un certain nombre de bavards, forcément irresponsables, pourrait faire progresser les choses. En revanche, Je crains fort qu'il soit immédiatement tenté de se saisir d'un certain nombre de questions et de problèmes qui ne sont pas de leur compétence, mais qui créent un climat de difficultés ou des problèmes à l'intérieur de l'Europe sur le plan politique. C'est la raison pour laquelle je vous dis tout de suite que dans l'état actuel des choses, nous ne sommes pas disposés à accepter ce texte.
Et c'était l'opposition de Jacques Chirac et du RPR à l'élection du Parlement au suffrage universel. Ça a beaucoup changé depuis. Hein. Presque tous les partis y sont favorables, mais à l'époque, on dirait qu'il était souverainiste en quelque sorte.
Absolument. On peut considérer que Jacques Chirac était souverainiste. Ça précédait d'ailleurs le fameux appel de Cochin. Et il y avait une sorte de clivage dans la classe politique, dans les partis politiques français, selon qu'on était favorable à la construction européenne, c'était plutôt les démocrates chrétiens et les centristes, ou selon que l'on était favorable à l'État-nation, à l'Europe des patries, comme le disait le général de Gaulle.
L'opposition était telle, d'ailleurs, d'abord les clivages n'étaient plus les mêmes, puisque à droite, on vient de l'entendre, il y avait un président qui était pour, il y avait Jacques Chirac qui avait été son premier ministre, qu'il n'était plus à l'époque, qui était contre, si bien d'ailleurs que Raymond Barre, qui était le premier ministre en 77, a dû faire passer ce projet d'élection des députés européens au suffrage universel en force, c'est-à-dire avec l'article 49.3.
Oui, d'ailleurs Raymond Barre à l'époque a utilisé beaucoup le 49.3, il y avait cette guérilla continuelle avec le RPR, qui a d'ailleurs conduit, selon nombre d'observateurs, à la défaite de Valéry Giscard d'Estaing en 1981. Et donc, là aussi, on a dû passer par le 49.3 pour faire adopter une mesure dont on mesure aujourd'hui l'importance par rapport à la légitimité du Parlement européen, même si, comme vous l'avez rappelé, l'abstention est encore trop massive.
On y reviendra avec cette abstention, Stéphane Beaumont. Cela dit, l'opposition à cette élection, ce n'est pas une opposition au suffrage universel. Il faut rappeler quand même que c'est vrai que ce Parlement, ça n'a pas été le cas. Mais ce Parlement, on pouvait se dire, maintenant que ces élus sont élus du suffrage universel, ils peuvent dire, c'est nous qui allons exercer le pouvoir.
Oui, c'est quand même un changement de nature assez profond. Ça veut dire qu'il y a une légitimité plus forte que connaît le parlementaire européen, peut-être moins dans la réalité de son pouvoir de contrôle ou de son pouvoir budgétaire que dans l'image qu'il peut donner de l'Europe, puisqu'on passe à ce moment-là d'une Europe eurocratique à une Europe plus proche du citoyen, pour ne pas dire une Europe citoyenne.
Et donc, Parlement, il n'a pas de pouvoir.
Oui,
c'est l'Europe eurocratique, comme vous dites, qui décide.
Il y a le mot Parlement. Attaché au mot Parlement, il y a l'adjectif, le qualificatif, le prédicat d'européen. Et vous ajoutez à ça suffrage universel direct. Le but de Valéry Giscard d'Estaing est de faire en sorte, justement, de faire avancer l'Europe en y introduisant le suffrage universel, c'est-à-dire en y introduisant directement la participation des peuples à l'un des trois acteurs du fonctionnement de l'Europe.
Et c'est ainsi donc que deux ans après cette décision de faire élire les députés du Parlement européen au suffrage universel que se produisaient les premières élections du Parlement européen, donc au suffrage universel. France Inter, Jacques Chabot, le 11 juin 1979.
Progression spectaculaire de l'UDF, net recul du RPR, stagnation du Parti Socialiste et maintien du Parti Communiste, c'est le principal enseignement, je crois, de ces élections européennes. Premier commentaire ce soir du Premier ministre, M. Raymond Barre, au lendemain de ces élections.
La participation a été une participation honorable. J'avais souhaité qu'elle fût un peu plus ample, car je pense qu'il est bon que les Français montrent leur adhésion à la construction européenne. Les électeurs et les électrices n'ont pas été motivés autant que par une élection qui fait intervenir des considérations de politique intérieure ou des considérations locales.
C'était Raymond Barre, donc, commentant les premières élections européennes au suffrage universel en 1979. Stéphane Beaumont, alors depuis, il y en a eu d'autres, il y en a eu cinq autres, puisque celle d'hier, je crois, était la sixième. Mais on voit finalement que les choses n'ont pas tellement changé. Très fort taux d'abstention. Dès le départ, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Même avec le suffrage universel, on se précipite pas aux urnes.
Oui, il y a un fort taux d'abstention. Toujours est-il qu'elles ont eu lieu. Que ce phénomène de l'abstention, il est récurrent et pratiquement permanent dans tout type d'élections, Et je vous rappellerai qu'en 1960, il y a eu un colloque organisé autour du doyen Vedel et de François Gauguel, où le titre du colloque était « La démocratie à refaire ». Et même pour des élections nationales, cantonales, législatives, eh bien, il était déjà question, il y a plus de 40 ans, de l'abstention. Donc pour l'Europe, ça a été croissant. Et il y a un phénomène paradoxal, un phénomène que nous devrions analyser, un phénomène que les hommes politiques devraient analyser, c'est celui de se demander pourquoi, au fur et à mesure que les pouvoirs du Parlement européen sont plus forts, pourquoi l'abstention est plus grande.
Mais est-ce que justement ça ne tient pas au fait qu'on devine, même si on ne connaît pas, parce que c'est compliqué tout ça, le fonctionnement du Parlement européen, on devine au fond qu'il n'a pas beaucoup de pouvoir. Ça n'a pas tellement changé, à part le mode de scrutin, dans son fonctionnement, le Parlement européen n'a pas tellement changé. Je crois qu'aujourd'hui, 50% de la législation nationale en France se décide dans l'Union européenne, mais pas au Parlement. Vous parlez en revanche quand même d'une évolution, par exemple, le processus de codécision. Hein. Il participe donc aux décisions qui sont prises, ce Parlement. Ça veut dire quoi, la codécision ?
Oui, moi je crois que c'est important, effectivement, de s'intéresser une seconde à cette codécision. C'est une procédure qui a été introduite par le traité de Maastricht dans une quinzaine de domaines, et elle a été étendue à 24 domaines supplémentaires et représente aujourd'hui la procédure législative dominante. Eh bien, la procédure de codécision s'inspire très largement de la procédure de coopération, mais y ajoute deux éléments essentiels. Un, la phase du comité de conciliation et l'impossibilité pour le Conseil des ministres, je dis bien l'impossibilité, d'imposer sa volonté au Parlement, même à l'unanimité.
Oui, mais Stéphane Maubon, une codécision à quoi ? Bon, à des lois qui sont proposées par qui ?
La codécision, comme je vous l'ai dit, elle est élargie à de très nombreux domaines, et pour être plus précis, par exemple, le Parlement européen, à l'heure d'aujourd'hui, et demain, ça sera encore plus vrai, et encore plus important, puisque 70% des textes viendront du Parlement européen. Le Parlement européen doit être consulté pour toutes les propositions législatives de l'Union européenne concernant, je cite, l'agriculture, la fiscalité, la culture, la représentation des travailleurs en entreprise, les contrôles aux frontières, le droit d'asile, l'emploi, les accords sur les services et la propriété intellectuelle ou la coopération entre les États et enfin toute discrimination. Donc voilà les premiers champs d'application depuis le 1er mai 1999 des domaines de la codécision. Eh bien cela est important. Et cela montre le pouvoir du Parlement européen qui, comme je le disais tout à l'heure, va demain dans la nouvelle constitution, et dès que cette constitution sera adoptée, eh bien, va demain voter, adhérer pour le président de la Commission européenne. C'est elle qui va le désigner, c'est pas elle qui va le trouver. C'est le candidat qui va être validé, la candidature va être validée ou non.
Oui, mais aujourd'hui, ça donne des décisions qui font pas rêver, vous les citez vous-même, hein. La hauteur des feux arrière des tracteurs, la composition du chocolat, la forme des concombres, la réglementation pour la chasse aux tourterelles, bon, ou plus important, par exemple, la modification des habitudes alimentaires. Vous dites d'ailleurs qu'on exagère parfois la compétence du Parlement, et que en ce qui concerne la modification des habitudes alimentaires, par exemple, est-ce que le camembert doit ou non être pasteurisé, en fait, on a un peu exagéré, là, c'est plutôt les souverainistes qui
oui,
invoquent cela.
Les souverainistes ou les eurosceptiques n'ont pas hésité à dénoncer le fonctionnement de l'Union européenne dans ce qu'on pourrait appeler la vie quotidienne, dans la quotidienneté de ses conséquences. L'histoire de la forme des concombres, il y a bien sûr une classification, mais elle a été adoptée par les professionnels eux-mêmes. La fameuse chasse à la tourterelle, elle a été certes interdite, mais elle a été au terme d'une loi française
quand même,
qui a été votée.
Ce qui prouve que c'est pas très
efficace, oui, en 1969. Moi. Alors il y a également la fermeture des petits marchés en France, les 36 000 petits marchés. Et effectivement, les États membres...
Ce n'est pas texte d'hygiène, dites-vous.
Voilà. Les États membres ont adopté en 93 une directive européenne sur ce sujet, mais elle a été reprise en droit français en 95. Donc je crois qu'il faut... c'est vrai, ce qui est important, c'est de... On a même dit... que l'Union européenne avait voulu interdire l'usage des sabots dans les fermes. Mmh. En gros, c'est la thématique souverainiste ou eurosceptique de l'Europe contre les terroirs,
oui, mais cela dit,
de l'Europe
vrai.
Contre les patries, de l'Europe contre les traditions, de l'Europe contre l'histoire interne des nations.
Oui, mais c'est vrai que nos législations nationales nous échappent. D'ailleurs, on voit bien que les gouvernements disent souvent ben, on n'y peut rien, c'est l'Europe qui a décidé.
Alors c'est vrai, on se renvoie aisément la balle et on se revoit trop facilement la balle. Je crois qu'il faut désormais prendre ses responsabilités et savoir que la norme nationale doit être conforme à la norme européenne et la loi nationale à la loi européenne.
Quel est l'avenir du Parlement européen, Stéphane Beaumont? D'abord, il va y avoir une augmentation encore du nombre de ses députés avec l'entrée en 2007 de la Bulgarie et de la Roumanie. Et puis surtout, que signifie un Parlement sans gouvernement? Parce qu'il n'y en a pas. C'est ça le problème de l'Europe, au fond. Elle a des députés, mais elle n'a pas d'autres ministres que les ministres de ses propres gouvernements.
Voilà, je crois que si nous devons avoir demain, comme le souhaitait Victor Hugo ou Jean-Jacques Servan-Schreiber, les États-Unis d'Europe, il faudra un jour faire un choix courageux et dire aux Européens si nous voulons d'une Europe confédérale, une sorte de confédération d'États-nations ou de confédération d'États-patrie-nations, ou bien si nous voulons d'un fédéralisme européen, c'est-à-dire d'un régime qui s'appellerait, à l'instar des États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe, avec un président des États-Unis d'Europe élu au suffrage universel direct dans le cadre d'une Europe. Et à ce moment-là, ça changerait fondamentalement le Parlement européen, puisqu'à ce moment-là, à l'instar du régime présidentiel américain, vous auriez le président et le Parlement, comme on a le président et le Congrès.
Merci Stéphane Beaumont de nous avoir donc éclairé sur ce Parlement qui vient d'être renouvelé hier. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un guide du Parlement européen publié chez Milan dans la collection Les Essentiels. Je signale également que ce soir à 19h20, le téléphone sonne d'Alain Bédouet sera pour thème les résultats des élections européennes, questions, analyses et commentaires. Vous pouvez retrouver ces renseignements et d'autres en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Michel Thomas et Antoine Viossa, documentation et archivina Virginie Bloch-Lenné, Claire Destacan et Émilie Trassante, revue de texte Stéphanie Duncan, on n'en était pas là aujourd'hui. Une réalisation de Anne Kobilac. Et une émission de Patrice Gélinet.